L'amphi. L'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va parler d'actualité culturelle puisqu'on va vous présenter un spectacle qui se joue à Ève, la scène universitaire, ce jeudi 26 octobre. Ça s'appelle Onde et c'est un spectacle de Jackie Jarry pour la création et Régie Lumière et de mon invité de ce soir, Thierry Ballas, pour la musique, le texte et l'interprétation. Bonsoir Thierry Ballas.
Bonsoir.
On va pouvoir vous découvrir, vous et votre démarche artistique, avant de parler plus spécifiquement du spectacle Onde que vous donnez à Ève. Puis ce sera l'heure de notre chronique littéraire « Pourquoi lire en 2023 » sur un de mes auteurs favoris, poète qui se revendiquait avant tout essayiste, Henri Michaux. Et pour le moment, c'est parti pour notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Thierry Ballas, vous êtes, d'après votre présentation sur le site « La Manufacture d'idées », metteur en son et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur sur synthétiseur, objets sonores et bagues Larsen et réalisateur sonore pour la scène et le disque. Vous êtes également directeur de la compagnie Inouï. Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous retracer votre parcours ?
Oui, deux petites parenthèses. C'est chouette d'aller chercher les infos sur la manufacture des idées parce que c'est un endroit assez atypique en France et que j'aime beaucoup. Et puis, deuxième petite parenthèse, j'ai fait un spectacle avec des textes de Henri Michaux. Je suis comme vous, oui. Un grand fan.
J'ai repéré ça, effectivement. Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi Henri Michaux aujourd'hui.
Il a écrit des très belles choses sur la musique. Alors, moi, je suis né dans une famille... Mon papa était un passionné d'électronique, pas du tout de musique, mais d'électronique. Et il s'était fait une chaîne Hi-Fi lui-même. Encore une fois, il n'avait que deux disques. Et il a transmis ce virus à mon grand frère. Et donc, mon grand frère avait une chaîne Hi-Fi un peu exceptionnelle. Et un jour, mon grand frère m'a appelé à venir dans sa chambre. Moi, je devais avoir 10-11 ans. Et il m'a mis un casque sur les oreilles. Alors, tout le monde a un casque aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand j'étais petit, personne n'avait de casque. Mmh. C'était très, très peu courant. Et donc, il m'a mis un casque sur les oreilles. Et il m'a fait écouter un disque qui venait de sortir et qui s'appelait The Dark Side of the Moon, des Pink Floyd. Et ça a été un choc, ça a vraiment été un choc. Et ça m'a donné envie d'aller dans le monde du son, dans le monde de la musique. Et je me suis mis à la batterie, en autodidacte, hein, complet. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres musiciens et puis on a commencé à jouer ensemble. Et puis j'ai eu envie de devenir musicien, mais moi je faisais partie d'une famille très très modeste, d'un milieu très modeste. Et les arts, la musique, tout ça, c'était pas du tout repéré. Donc ça faisait très peur à mes parents quand je parlais de devenir musicien. Et je me suis dit que peut-être qu'ils avaient raison. Et j'ai cherché un métier qui me permettrait de rester en contact avec la musique. Et donc j'ai fait des études de son. Et ça a été une vraie passion. Alors d'abord, j'ai eu la chance de faire des études de son dans une école de théâtre, donc j'ai découvert ce que c'était que le spectacle. J'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. J'ai découvert le monde du spectacle, j'ai découvert le monde de la création, j'ai découvert le monde du son. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur de son qui était assez exceptionnel, qui m'a fait découvrir la musique électroacoustique. Et là, j'ai commencé à faire des ponts entre mes deux passions, c'est-à-dire entre le son et la musique. Et j'ai commencé à faire de la création, très naïvement, en utilisant de la percu, en utilisant des synthés. Il se trouve que j'ai eu accès, grâce au groupe dans lequel je jouais, c'était un groupe purement amateur, hein. Mais il se trouve que le clavier avait un synthétiseur Minimoog, pour ceux qui connaissent, qui est un des premiers synthés qui a été utilisé par les musiciens sur scène. Et il était chez moi. c'était chez mes parents qu'on répétait. Et donc, j'ai manipulé ce Minimoog que j'ai toujours, hein, que j'ai toujours actuellement et que j'utilise toujours sur scène. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire des créations pour d'autres, pour du théâtre, des créations sonores, des créations électroacoustiques, à mi-chemin entre la musique et le son. Mais de toute façon, alors aujourd'hui je peux le dire, à l'époque je le disais pas, parce que j'avais pas encore identifié ça, mais moi aujourd'hui je dirais que ce qui me paraît être la plus belle définition de la musique, c'est que c'est l'art de jouer avec les sons. Et à partir de là, bah, on peut aller dans plein d'esthétiques. Et évidemment qu'il y a une très belle, il y a plein d'esthétiques qui utilisent le solfège, les notes, le rythme. Mais il y a aussi des esthétiques qui peuvent s'éloigner un petit peu de ça. Et voilà. Et puis, un jour, j'ai eu envie de créer mon, j'ai aussi en parallèle enregistré beaucoup de disques, notamment dans le milieu du jazz. Et un jour, j'ai eu envie de créer mon label. Et donc, en 1999, j'ai créé mon, un label qui s'appelait Inouï. Et puis 2002, c'est la grande crise du disque, un peu partout dans le monde, et notamment en France. Et là, j'ai eu l'idée de créer un spectacle. Et c'est là qu'a démarré ma nouvelle activité de metteur en son, oui, metteur en son, metteur en scène, de créateur de spectacle. Voilà.
Alors oui, vous avez utilisé la formule tout à l'heure, la musique, c'est l'art de jouer avec les sons. Alors j'aime bien cette formule parce qu'il y a un double sens dans le verbe jouer, donc, parce que c'est un verbe qu'on utilise aussi bien en musique qu'au théâtre, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, ou c'est la rencontre entre musique et théâtre, en fait.
Alors, on l'utilise en musique, on l'utilise en théâtre, et on l'utilise dans le monde de l'enfance.
Oui, c'est vrai.
Et oui, mais c'est aussi ça qui m'intéresse. Je vais vous dire un petit truc que je répète sans arrêt, parce que pour moi, c'est hyper représentatif de mon rapport à la musique. Vous savez, quand un jeune enfant va vers un adulte et le dit « je voudrais dessiner », l'adulte, il va chercher un papier, des crayons, et puis il lui dit, bah vas-y, dessine, et puis on va dessiner ensemble, et puis voilà. Quand un enfant dit, je voudrais faire de la musique, en général, l'adulte, le réflexe, c'est, ah, on va se renseigner sur les cours de musique. Voilà. Alors que moi, j'invite les adultes, dans ce cas-là, à aller dans la cuisine la plus proche, à sortir tout ce qui peut faire un son dans la cuisine. C'est un des endroits où on trouve le plus d'éléments qui font du son. Et puis d'y aller, quoi. On a le droit de faire de la musique sans aller tout de suite prendre des cours. Je ne suis pas un anti-solfège, je ne suis pas un anti-cours de musique. Vraiment pas. J'ai même des regrets, moi, par rapport à ça. Mais voilà, je trouve qu'on dramatise le rapport à la musique. Et moi, je veux le dédramatiser. Donc, jouer, c'est ça. Et après, oui, il y a un rapport. Alors, moi, je prétends pas du tout faire du théâtre musical. Je suis très méfiant là-dessus. Je pense que pour faire du théâtre, il faut des comédiens. Et pour faire de la musique, il faut des musiciens. Et donc moi, mes spectacles, ce n'est pas du théâtre musical. C'est vraiment des spectacles musicaux. Et si j'ai envie, il se pourrait que j'aille vers ça dans les années à venir. Mais dans ce cas-là, je ferai appel à des comédiens, des comédiennes, et probablement que je m'associerai avec un metteur en scène. Mais c'est vrai que j'aime bien le rapport aux mots, par contre. Voilà.
Ah oui, vous gardez quand même un lien entre le son et le texte, la musique et la poésie ?
Oui, oui, ouais, j'aime beaucoup la poésie. Moi, c'est ce qui me sauve la vie, la poésie. Je pense notamment à cette période du confinement, c'est ce qui m'a vraiment sauvé la vie. Et oui, oui, je suis très sensible à l'écriture poétique, et c'est vrai que très tôt, j'ai commencé à utiliser des textes poétiques dans mes spectacles. C'est variable, hein, ça dépend un peu des spectacles, mais oui, j'aime bien ça. Ouais.
Et pourquoi cet attachement à la poésie, alors ?
Bah parce que c'est la musique des mots, en fait. La poésie, c'est aussi ça, quoi. C'est la musique des mots. C'est un mode d'expression qui, moi, me sort de la réalité. Alors, je crois que je suis quelqu'un d'un petit peu trop sensible à l'actualité. D'ailleurs, en ce moment, je sais vaguement ce qui se passe, mais je n'écoute pas les journaux. J'essaye de m'éloigner de ça parce que je suis trop sensible à tout ça. Et voilà. Et l'art poétique, c'est quand même un art qui nous parle du monde. C'est pas quelque chose qui nous sort du monde. Ça nous parle du monde, mais avec une distance qui nous permette de pas être trop en lien avec l'actualité qui est complètement catastrophique. Voilà.
Donc aujourd'hui, vous pratiquez la musique à l'aide de médias divers, comme l'utilisation d'objets. On va écouter un extrait d'une performance de 2017 qui, si j'ai bien compris, alors vous pouvez me reprendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications sur la vidéo YouTube, est une reprise de Pink Floyd avec des instruments peu communs. Alors la vidéo s'appelle « La face cachée de la lune », on écoute ça.
There's no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look alive. Thank you.
Donc on vient d'écouter un extrait de La face cachée de la lune, un spectacle qui date de 2017. C'était sur la scène Audi-Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche de faire de la musique avec des objets et nous parler un peu plus de ce spectacle ?
Alors, ce spectacle, j'en ai parlé, j'ai expliqué tout à l'heure que ma première grande claque, c'est cet album, The Dark Side of the Moon. Et en 2012, alors le spectacle, ce que vous avez pris date de 2017, mais le spectacle a été créé en 2012. Et mon idée, en fait, c'était de faire ce que les Pink Floyd n'avaient jamais fait. Quand les Pink Floyd ont fait ce disque, c'était un travail de studio avec énormément de bruitage réalisé en studio. Et puis, l'utilisation pour la première fois de deux synthétiseurs, le Mini Moog et le Synthi AKS. Et ces deux synthétiseurs, ils appartenaient pas à Pink Floyd, ils appartenaient au studio Abbey Road. Donc les Pink Floyd se sont jetés dessus en autodidacte complet. C'est des synthés qui n'ont pas de mémoire. Et donc, à chaque fois qu'ils avaient une idée, on était déjà dans les techniques d'enregistrement multipiste. Donc ils pouvaient enregistrer le résultat de leur travail et puis ils passaient à autre chose. Et ça veut dire qu'au moment où le disque est sorti, où ils ont commencé à faire des concerts, ils ne pouvaient pas l'interpréter sur scène. D'abord parce qu'ils étaient que quatre et qu'ils ont fait énormément de re-recording. Et puis parce que faire des bruitages sur scène à cette époque-là, c'était trop compliqué. Et puis reprogrammer les synthés, ils n'y arrivaient pas, tout simplement. Donc, ils utilisaient des bandes playback. Voilà. Et moi, je me suis dit, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, en mélangeant les technologies analogiques, les technologies numériques, pour le bruitage, par exemple. Et puis, il se trouve que je connais bien ces deux synthétiseurs-là. En fait, la face cachée de la Lune, c'était la restitution sur scène du travail studio des Pink Floyd avec les instruments d'origine et avec tous les bruitages réalisés sur scène. Donc oui, on avait plein d'objets sonores sur scène. Mais on était assez fidèles à l'album. C'est-à-dire que l'album est devenu notre partition, en fait. C'était une partition sonore. Et voilà, c'est le gros succès de la compagnie. On l'a joué de 2012 à 2017. Et on l'a joué 120 fois en France. Ce qui, pour une compagnie comme la nôtre, est assez exceptionnel.
Alors, est-ce que du coup, ça rentre dans le cadre de la musique concrète ? C'est une expression qu'on croise souvent dans vos présentations sur différents sites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors j'en ai pas encore parlé, mais j'ai eu une autre chance énorme, c'est que Étienne Bultinguer, qui était l'ingénieur du son qui m'a formé, m'a fait rencontrer le compositeur Pierre Henry. Et ça aussi, c'est quelque chose de déterminant dans mon parcours. Je suis devenu technicien assistant d'Étienne, puis technicien remplaçant d'Étienne, puis interprète de Pierre-Henry. Et à la fin de sa vie, il m'avait choisi pour interpréter des concerts à sa place, ses œuvres en concert à sa place. Donc ça a été une rencontre déterminante. Et donc la définition que je vais vous donner de la musique concrète, je la tiens de lui, parce qu'il y a une petite erreur qui est fortement véhiculée en France. C'est cette idée qu'on utilise le terme de concret parce qu'on utiliserait des objets. Mais c'est pas ça. Le terme concret, il est à opposer au terme abstrait. La musique, telle qu'on la pratique dans la plupart des temps en France, c'est une musique qui s'appuie sur l'écriture musicale, le solfège. Et effectivement, un musicien très bien formé, un compositeur très bien formé, peut imaginer la musique dans sa tête, c'est-à-dire peut imaginer la musique de façon totalement abstraite, l'écrire sur partition et la donner à jouer à des musiciens. La musique concrète, c'est l'idée qu'on n'anticipe pas ce qu'on va faire et qu'on n'est pas dans l'abstraction, on est dans le concret. C'est-à-dire qu'on va créer la musique au moment où on l'a fait. Voilà, c'est ça l'idée de la musique concrète. On est dans le concret du son, dans le concret de la musique, et donc on retrouve la manipulation sonore. Ça peut être effectivement la manipulation d'objets, mais ça peut être aussi la manipulation d'instruments de musique, ça peut être la manipulation d'appareils dédiés à l'origine au son. Mais voilà, on est dans le concret, on n'est pas dans l'abstraction de l'écriture, on est dans le concret. Et du coup, c'est une musique qui a remis en avant un des paramètres du son, qui est le timbre. C'est-à-dire que c'est une musique qui s'est un peu échappée des notes, de la mélodie, de l'harmonie, parfois même du rythme, et qui a remis en avant la notion de timbre. Et donc forcément, c'est une musique qui est accessible aux ingénieurs du son, aux gens qui travaillent sur la matière sonore.
Et peut-être au jazz aussi un peu, non ? Ça me fait penser, parce qu'il doit y avoir un côté très improvisation.
Oui,
aussi,
il y a la notion d'improvisation. Le terme concret rejoint la question de l'improvisation. Mais en jazz, on improvise avec des règles, malgré tout.
Oui,
enfin, dans la plupart des musiques jazz, on improvise malgré tout avec des règles. En musique concrète, il y a vraiment l'idée de s'échapper des règles, vraiment. Il y a une idée de liberté, moi je me permets ce terme-là. Ça ne veut pas dire que les autres musiciens ne sont pas libres, je ne dis pas ça non plus. Mais il y a une idée de liberté par rapport au résultat musical.
Alors sur le texte de présentation du site de la compagnie Inouï, que vous avez fondée en 2002, on lit que vous désirez partager une musique de création qui ne s'appuie pas sur des classifications de style, mais bien sur la question de l'écoute partagée. de la découverte de la musique comme un art de jouer avec les sons, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez en fait par cette notion d'écoute partagée?
Ben, moi, quand j'imagine un spectacle, je ne m'imagine pas tout seul. J'ai tout de suite en tête la question de la présence du public. Et j'ai la question du partage. Quand j'étais petit, je ne rêvais pas d'être sur scène. J'y suis arrivé presque par hasard. Et ce qui me plaît en étant sur scène, c'est justement ce moment de partage avec le public. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Je ne conçois pas un spectacle tout seul dans mon coin. Je le conçois pour un moment le partager. Et la notion d'écoute, plus le temps passe, plus je pense que c'est une notion sur laquelle il faut qu'on revienne, parce que j'ai l'impression que nos sociétés sont en train de devenir malades du visuel. Je suis frappé de voir dans la rue des gens qui marchent en regardant leur téléphone portable. On est assaillis d'images. On communique par l'image. Et il y a quelque chose de très spécifique à l'écoute, c'est le temps, c'est le rapport au temps. L'image fixe existe et le son fixe n'existe pas. L'instantané sonore n'existe pas. Le son est vraiment lié au temps et je pense qu'on a besoin de retrouver un rapport plus juste au temps, à nos rythmes d'humains. Donc ça peut paraître très prétentieux, hein, mais je le fais à une toute petite échelle, évidemment. Mais j'ai envie de resensibiliser les gens à la question de l'écoute. Oui, je pense qu'on a besoin, de s'écouter les uns les autres beaucoup plus. Et puis on a besoin, encore une fois, de retrouver nos rythmes d'être humain qu'on est en train de perdre complètement. Mais j'ai l'impression que le son peut nous y aider.
Restez avec nous, juste après une petite pause, on abordera plus spécifiquement le spectacle Onde que Thierry Ballas donnera à Eve ce jeudi 26 octobre. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Echt le 15 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite on écoute Pink Floyd, Money. Get back. I'm De retour dans l'amphi avec Thierry Ballas qui nous a présenté en détail sa démarche artistique en tant que musicien, qui mélange la musique et la poésie à travers différents dispositifs scéniques et l'utilisation de matériaux musicaux divers. On va pouvoir se pencher maintenant de plus près sur votre spectacle Onde, Thierry Ballas. Donc sur le site de Eve, on peut lire la présentation suivante. Onde se présente comme un véritable concert confidence. Thierry Ballas, seul en scène, partage ses expériences autour du son, de la musique électroacoustique, ainsi que de la musique libre. Grâce à la manipulation sonoro-acoustique, l'interprète nous rappelle que la musique est avant tout l'art de jouer avec les sons, encore une fois cette formule qui revient, et que ces derniers peuvent provenir d'un nombre incalculable de sources. Donc dans cette présentation, il y a une notion qui attire l'attention, c'est celle de concert confidence. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de formations. Et puis j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des actions culturelles et je continue à en faire. Donc des ateliers avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des détenus en prison. Et pendant le confinement, ça a été une période que j'ai très très mal vécu, puisqu'on ne pouvait plus jouer nos spectacles. Et donc j'ai cherché quelque chose à faire et je me suis mis à écrire des textes en fait. Des courts textes sur divers à partir de souvenirs essentiellement. Et puis je savais pas bien quoi en faire. Et puis à la sortie du confinement, j'ai été invité par Superformat et puis par les Quinconces. Ils ont organisé ensemble un concert aux Saunières et ils m'ont proposé d'y participer et je me suis mis à réfléchir à un concert où j'utiliserais ces textes. Et donc c'est un peu eux qui m'ont lancé dans cette dynamique-là. Et j'ai fini par créer le spectacle Onde qui est où je partage ces réflexions, ces souvenirs autour du son, tout en ayant un gros instrumentarium sur scène. Je dirais un peu mon instrumentarium de création quand je suis en studio, donc qui mélange des vieux synthés mais aussi des objets acoustiques parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et voilà, et donc c'est un espèce de concert confidence dans le sens où je partage des mots, mais également des sons et un peu de musique. Ouais. Voilà, il y a toujours ce mélange des mots et de la musique, sauf que là, pas pour la première fois, mais parce que j'ai déjà écrit des textes, mais là, je partage vraiment des expériences personnelles.
Il y a un côté un peu intimiste. Je vais reprendre une expression de Samuel Beckett qui parlait de la scène théâtrale comme du lieu du crâne. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ?
Ouais, vous avez des belles références. oui, absolument. C'est ça l'idée et c'est ce qu'on me renvoie beaucoup parce que c'est vrai que je parle un petit peu, notamment j'évoque un souvenir de ma petite enfance autour du son. Donc oui, il y a un truc très intime. Je l'ai pas imaginé comme ça au départ, mais de fait, c'est devenu quelque chose de très intime. Ouais.
Et pourquoi ce titre « Onde » ?
Onde, parce que c'est l'espèce de dénominateur commun pour plus parler de son, pour plus parler de musique, pour plus avoir à parler de voix, pour pas avoir à choisir le vecteur. Je remonte aux sources et la source, c'est les ondes. Voilà.
Peut-être même au concret, finalement.
Et oui, il y a quelque chose de concret dans les ondes, effectivement, même si on les voit pas, si on a du mal à les. Mais oui, il y a quelque chose de concret dans le phénomène de l'onde. Et puis, c'est un phénomène. Qui mérite d'être expliqué, qui demande quelques explications, parce que tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est que ce phénomène ondulatoire, et c'est intéressant.
Et d'ailleurs, le terme de musique libre, c'est un synonyme de musique concrète ou c'est encore autre chose ?
Non, c'est un peu gonflé. Y a des musiciens qui me le reprochent d'ailleurs, et je comprends qu'ils me le reprochent. Musique libre, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est pour moi, c'est en lien avec la musique concrète, oui, absolument. C'est, encore une fois, c'est cette idée d'une musique qui s'affranchit de toute règle. Pour moi, c'est ça, la force de la musique concrète. Alors, il y a des musiciens de musique concrète ou électroacoustique qui est un dérivé de la musique concrète. Justement, la musique électroacoustique, ça, je pense que c'est le terme est né de musiciens qui avaient envie de faire de la musique, d'avoir le même rapport que la musique concrète, tout en ayant un principe de composition, tout en se redonnant des règles. Mais moi, il me semble qu'à l'origine, un des intérêts de la musique concrète, c'est de s'échapper des règles des règles et des normes. Donc, d'où le terme liberté. Mais encore une fois, je ne nie pas que tous les musiciens sont libres quand ils sont sur scène.
Vous disiez ce spectacle, il a été créé pour mettre en scène, on va dire, des textes que vous avez écrits pendant le confinement. Mais est-ce que ce spectacle il s'inscrit aussi dans une forme de continuité avec vos précédentes productions ?
Ça, j'imagine. J'en prends souvent conscience après, mais oui, j'imagine. C'est encore une fois le rapport aux mots, la notion de partage. C'est une étape. Je ne sais pas s'il y a vraiment une lignée, mais c'est une étape. Je pense que c'est un besoin d'entrer en contact un peu plus direct avec le public, qui était déjà un espoir que j'avais avec le gros spectacle d'avant, qui s'appelait Vers la résonance, qu'on a créé ici au Mans d'ailleurs, grâce à la scène nationale. Mais j'ai une grande tristesse, c'est que ce spectacle, il est né pendant le confinement, donc c'est un spectacle qui a très peu tourné. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, parce que c'est un spectacle auquel je tenais beaucoup, où il y avait des mots, encore une fois, des mots de Christian Bobin notamment. Toujours la poésie. Et voilà, et je crois que j'ai une grande frustration avec ce spectacle. Et Onde, c'est peut-être un moyen, en faisant un spectacle peu cher, hein, parce que c'est aussi ça l'intérêt du solo, soyons très clairs. On est dans une période où monter des spectacles, c'est devenu très compliqué. Donc, je ne nie pas que j'ai créé un solo parce que je savais que ça serait beaucoup plus facile à vendre qu'un spectacle avec plein de musiciens sur scène. C'est une étape. Et j'ai déjà un projet avec plein de musiciens sur scène pour les années à venir. Hein. Mais voilà, il y a aussi une réalité économique. Et moi, je suis directeur d'une compagnie. Je suis pas que artiste. Je ne sais pas qui peut se prétendre que artiste, mais je fais partie du monde. Le monde, en ce moment, il est en difficulté. Et donc, je fais partie des gens en difficulté. Et même si je ne me plains pas, parce que j'ai malgré tout la chance de faire un métier que j'aime. Mais voilà, et encore une fois, ouais, le 11, je pense que c'est un spectacle que je ne vais pas arrêter de jouer. J'espère le jouer encore de longues années parce que j'y prends beaucoup de plaisir et que j'ai des beaux retours du public.
Et d'ailleurs, en parlant de public, est-ce que c'est tout public pour vous, ce spectacle, ou
Oui. Je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Parfois, je réfléchis à ça. Par exemple, en janvier prochain, dans le cadre de la Biennale, on va créer un grain de sable. C'est un spectacle pour lequel on a pensé, avec l'auteur Fabrice Melchior, avec qui j'ai travaillé, on a pensé jeune public. Mais malgré tout, ça sera un spectacle qui, je pense, pourra vraiment beaucoup plaire aux adultes. Mais là, on a pensé quand même jeune public. Onde, j'ai pas du tout réfléchi à la question. De fait, je l'ai déjà joué en scolaire avec des enfants de CM1, CM2, et ça passe très très bien. Voilà. Mon écriture, elle est très simple, hein, de toute façon, donc elle est tout à fait recevable par des enfants. Et musicalement aussi, il y a quelque chose de très ludique dans la musique. Alors, je sais pas d'ailleurs quelle musique je fais sur scène, hein, je sais plus. Je me pose plus la question, moi. Mais c'est une musique. Il y a quelques notes. Il y a du rythme parce que j'aime ça. Et puis, il y a de la matière sonore. Donc, c'est une musique très accessible. Oui.
Merci Thierry Ballas d'être venu nous parler de votre travail et de votre spectacle Onde qui aura lieu, je le rappelle, ce jeudi 26 octobre à Ève, la scène universitaire à 20h30. Et en plus, ça coûte pas cher. Je rappelle, c'est 5€ pour les étudiants. Voilà. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Donc, ça promet d'être un spectacle étonnant. Alors, n'hésitez pas à y aller. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Echt le 15 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Restez avec nous, on se retrouve juste après Camille, Je ne mâche pas mes mots.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas,
je ne mâche pas, je ne mâche pas.
Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux phrases et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas.
De retour dans l'amphi, et c'est l'heure maintenant de notre chronique « Pourquoi lire en 2023 ?» sur Henri Michaud.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Qu'est-ce que la poésie ? Nombreux sont ceux qui ont eu la prétention de la définir. Kundera la place sous le signe de la nostalgie. Rimbaud la lance en quête de la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Pour Novalis, la poésie est la philosophie des sentiments. Et Théophile Gautier d'affirmer sans concession des mots rayonnants, des mots de lumière, avec un rythme et une musique. Voilà ce qu'est la poésie. Faire de la poésie la musique de la lumière, c'est oublier Villon, Lautréamont, Nerval et bien d'autres. C'est oublier aussi Henri Michaud, qui lui après garde de ne pas définir la poésie. Et en a ainsi, à son insu, démultiplié les formes. Dans toute son œuvre, si peu de vers. Et pourtant, la poésie est partout. Dans ses nouvelles, ses rares pièces de théâtre, ses expérimentations de la psyché humaine à travers l'usage de la mescaline et d'autres drogues. Mais quelle poésie ? Où se cache-t-elle celle qui ne dit pas son nom et qui crie pourtant dans chaque ligne de celui qui, dans sa lettre de Belgique, se considère avant tout comme un essayiste ? Peut-être dans le fait justement qu'elle se taise, qu'elle s'efface si bien pour laisser transparaître, derrière ce terme ventru de poésie, tout un onirisme, la vérité de l'écoulement imaginaire, ce que Michaud appelle dans son anthologie « l'espace du dedans ». L'écriture de Michaud ne prétend à rien, ni à un discours sur le monde, encore moins à un programme politique ou même esthétique, pas même à bien y réfléchir à l'expression de soi, puisque le sujet Michaud, comme la poésie, s'efface, devient un pré-sujet, n'est qu'une position d'équilibre, un creux dans lequel peut venir se placer confortablement, avant que ne démarre le train fantôme, le lecteur hagard, égaré. C'est alors que la nuit remue. C'est une écriture qui semble naître de nulle part pour aller nulle part, à l'image de Plume, ce personnage sans histoire, inspiré du Charlot de Chaplin, dont les aventures croisent le merveilleux carolien et l'angoisse kafkaïenne. Une écriture qui fuit, dans toutes les lézardes de l'intérieur, en quête d'une fissure dans le mur. Exploration de l'intérieur, mais exploration subie. Ce n'est pas le plaisir fanfaron de l'aventurier, mais l'agitation frénétique du fugitif. Le refus de l'enfermement, titre Maurice Blanchot dans son essai consacré à Henri Michaud. Écriture toujours ailleurs, pour reprendre le titre d'un objet littéraire non identifié, entre recueil de poèmes en prose ou de courts récits fantastiques et carnet de voyage en grande garabagne au pays de la magie, à Podema. Les créatures et les peuples de l'espace du dedans, impossibles, délirants, terrifiants parfois, ou bien hilarants, mais en bref, fictifs, sont présentés à l'œil fantôme qu'est la lecture avec la netteté du fait, du phénomène scientifique observé. Michaud n'use jamais de cet artifice qu'on voit chez certains romanciers et nouvellistes du XVIIe et XVIIIe siècle, qui consiste à prétendre que l'histoire complètement fantasque qu'on s'apprête à raconter est parfaitement vraie, tout en sachant qu'on ne trompera pas le lecteur, qui n'est plus assez candide pour s'abstenir de la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Michaud ne prétend jamais raconter vrai. Il ne prétend jamais non plus raconter. En fait, Michaud ne dit jamais, il montre. Tout n'est qu'images qui surgissent, probablement malgré lui. Ça s'écoule de ses mains comme de l'encre poisseuse qui tâche. Tâche que, dans son abjection pour tout ce qui laisse une trace, Michaud relègue au rang d'essai, pour ne pas dire de raté. Image, image. Coïncidence que Michaud soit également peintre ? Dans un texte sur la peinture, Michaud parle de ces visages qui surgissent quand son pinceau vagabonde sur le papier. Michaud, espace du dedans, grande et vaste masure hantée par toute une foule d'ombres qui jouent leur petit théâtre particulier, maison dont le vide cherche à s'écrouler sur lui-même, à s'annihiler pour ne plus laisser que le dehors, la liberté. Non pas la mort, mais la non-existence. Être néant empêché par l'infini turbulent, tous ces misérables miracles qu'il rencontre dans ses plongées droguées au sein de ces labyrinthes de couloirs sans mur. C'est face à ce qui se dérobe que surgit l'écriture, à la poursuite répétée, incessante, de ce qui ne se laisse pas saisir, ce qui ne se dit pas, l'ineffable vide. Les petits dessins gribouillés, méconnaissables, comme des mouvements saccadés du poignet, images de l'illisible, sont peut-être alors les traductions universelles, loin de toutes les faiblesses de la langue, de celui qui a écrit des milliers de pages laissées à la postérité, dans le seul but obsessionnel, impossibilité tragiquement drôle, de ne pas laisser de traces. Lire Michaud, c'est déjà le trahir. Alors interprétez, mais n'ayez crainte. Nulle interprétation possible au bord des gouffres, seulement la connaissance, celle que procure immédiatement et sans saisie possible, l'obscurité. Et pour citer encore Blanchot, pourquoi cet impérialisme de la lumière? Bref, lisez Michaud, malgré lui, en 2023.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Si je n'entends plus ton pas, est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va, je ne sais pas.
comme une ombre, comme un rêve. L'homme qui vient de la terre y retourne à la fin. Il gagne bien péniblement son pain. C'est un vase qu'on brise, c'est une herbe qui sèche, c'est une fleur qui fane comme une ombre. Une brise. Il s'évapore vite comme un nuage, perd le nord au milieu du voyage. Il tombe comme le vent, s'élève comme la poussière, puis enfin disparaît comme une ombre, comme un rêve. L'homme qui vient, il s'est donné du mal pour se donner du bien. Il s'est donné du mal, il s'en est donné plein. Couché sur la surface haute du désir, d'un même regard saisissant le grain de sable de la dune et la lune, apparaissant dans le soir naissant. Couché sur la surface plane du désert, d'un même regard embrassant le grain de sable de la dune et la lune. L'homme qui vient n'est au courant de rien.
Merci à tous d'avoir suivi l'Amphi, c'était Mensfiltia, Les Contemplations et L'Homme qui vient de Feu Chatterton. La prochaine émission aura lieu ce mercredi 25 octobre pour une émission spéciale Halloween où avec tout un tas de chroniqueurs et de bénévoles de Radio Alpa, on vous donnera plein de conseils de pop culture autour des thèmes de l'horreur et du fantastique. Faut surtout pas louper ça, alors à bientôt dans l'Amphi et je vous laisse en otage à la percée de l'histoire. Dans quelques minutes, ils sont déjà installés.
C'était l'Amphi, l'émission étudiante.
Étudiante. Radio Alpa, l'alternative.